Amis de Radio Occitanie de la poésie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Fernando Pessoa disait « Je n'ai ni ambition ni désir. Être poète n'est pas une ambition que j'ai, c'est ma manière à moi d'être seul. » Nous allons aujourd'hui avoir cette heure de poésie hebdomadaire. Depuis 1983, nous sommes ici à vous donner cette heure toutes les semaines de poésie. Et nous allons recevoir, du moins par téléphone, un poète qui a été un des grandes voix de Toulouse dans les années 80, qui est maintenant à Perpignan, qui est d'origine corse, et qui s'appelle Jean-Claude Ettori. Je voudrais avant, peut-être, avoir une petite réflexion, celle de Paul Celan. Paul Celan, poète magnifique, juif interné dans les camps de concentration, qui en est ressorti vivant, et qui a écrit une œuvre en allemand, c'est-à-dire dans la langue des bourreaux. Il s'est malheureusement suicidé parce que l'héritage était très lourd, et ensuite il avait donné des conférences en Allemagne sur ses publications de livres de poèmes, et il n'avait été absolument pas compris. Voici ce que Paul Celan disait. Après Auschwitz, face au goulag, face aux effets du refoulement de la part païenne du monde christianisé, la poésie a instauré un surgeon du romantisme, mélange d'objectivité abusive et de non-dit inquiétant. Nous sommes dans ce mélange de romantisme et de non-dit inquiétant actuellement. Et il est temps de faire passer la poésie du stade du moi au stade du réel. Ça a été une de ses dernières paroles. Faire passer la poésie du stade du moi, puisque la poésie, évidemment, est la chose la plus personnelle et la plus intime qui soit, au stade du réel, c'est-à-dire que la poésie doit dire le monde tel qu'il est, tel qu'il devrait être aussi, c'est son côté prophétique. Elle a cette obligation prophétique, la poésie, de pouvoir dire le monde est comme ça, mais il pourrait être autrement. Poésie pour l'autre, disait encore Paul Celan, elle dit la limite et la transmission infinie de tout discours, face à l'abîme de toute disparition, face à l'impossible mais incarné alchimie du mot et de son objet, du symbole et du réel. Voilà, le réel. Alors le réel, nous allons y être tout de suite avec Jean-Claude Ettori, et nous allons écouter d'abord, avant de prendre Jean-Claude Ettori au téléphone, nous allons écouter une de ses poèmes mis en chanson dans un CD qui s'appelle Vermentino, et nous allons écouter Ma vie comme ça. Donc, c'est les aléas du direct. Nous allons saluer Jean-Claude Ettori. Jean-Claude Ettori, est-ce qu'il est à l'appareil?
Absolument, je vous dis, je envoie un grand bonjour à vous tous et à vous tous.
Merci Jean-Claude, et merci d'être avec nous.
C'est un grand plaisir, comme chaque fois.
Je vais tout de suite dire quel est l'objet de ta dernière publication, avant même peut-être de te présenter. On te présentera, je pense, après la préface de ce dernier livre, la préface d'André Bonnet.
Oui.
Il s'agit donc d'un livre de Jean-Claude Ettori, avec deux parties qui se répondent, une partie carnet de route et une partie texte sacré. Jean-Claude Ettori va nous expliquer dans quelques instants pourquoi il y a cette confrontation et cette juxtaposition de ces deux parties. Alors ça s'appelle donc Carnet de route et texte sacré, et c'est aux éditions Sabine. Et voici ce qu'en dit son préfacier. Nombreux sont les poètes comme Jean-Claude Ettori, au talent précoce, qui sont inspirés par le sacré, l'évasion et l'errance. Vagabond des mots, il alimente son imaginaire dans des contrées lointaines et nourrit ses rêves dans l'étendue infinie des nuages, sur la terre comme au ciel. Jean-Claude Ettori a tout essayé. Au fil d'une vie bien remplie, faite d'intenses productivités littéraires et de renouvellements permanents, il s'est fait connaître à l'âge de 15 ans, sur les planches d'un théâtre à La Rochelle. Il est l'auteur notamment d'un recueil de nouvelles remarquées, « L'homme qui aimait Diana Krall », Axel Bauer et Le Café Aguadas. C'était aux éditions Sabine. Il récidive ici, avec ce nouvel opus, des carnets de route et autres textes sacrés. Une occasion unique d'entrer dans son univers foisonnant. Dans son vieux sac en cuir, des mots, toujours des mots, qui célèbrent la vie, la beauté, la joie, la souffrance et la mort. Une nuée de mots qui frappent fort. D'autres chuchotaient dans une église vide. D'autres encore fredonnaient le soir à l'heure de l'apéro. Des mots clamés le poing levé quand vient la colère et la révolte. Des mots qui glissent sur le sable brûlant. Des mots sous le soleil d'Égypte et des pyramides. Des mots pour conjurer l'absence d'Elmo. Des mots d'amour en hommage à toutes les femmes. Le poète voyageur célèbre ces mots partout où le vent le porte, comme au Festival des Trois-Rivières au Québec, la vitrine par excellence de la poésie du monde entier qui célèbre cette année son 40e anniversaire. Ettori, c'est aussi une voix. Sa voix, qu'il a prêtée au théâtre, au cinéma, à la radio, à la télé et à la publicité. Cette voix obtenue avec la société Lacroix et Ruggieri, le Jupiter d'or à Montréal en 2002. En 2005, il organise la semaine Toulouse-Québec de poésie. On lui doit aussi une mise en scène inédite de la prose du Transsibérien de Blaise Cendrars en hommage au poète globe-trotteur. Toute vie n'est qu'un poème, un mouvement. Je ne suis qu'un mot, un verbe, une profondeur. Dans le sens le plus sauvage, le plus mystique, le plus vivant, écrivait en 1913 Blaise Cendrars à propos de la prose du Transsibérien. Comme lui, Ettori ne trempe pas sa plume dans un encrier, mais dans la vie, donc dans ce réel dont nous parlions tout à l'heure avec Paul Celan. Et c'est peu dire que l'ami Jean-Claude a plusieurs vies. Laissez-vous plonger dans son univers au style singulier. Il est passé maître de livre en livre dans l'art des récits épiques et mystérieux. Voilà une très belle préface donc que je tenais à lire dans des bonnets, André Bonnet, qui est le président fondateur du prix Méditerranée et qui est également adjoint à la culture donc de la ville de Perpignan. Voilà.
Et qui est bien sûr le fondateur du Centre Méditerranée de littérature. Qui a fait ses 40 ans aussi l'année dernière d'existence, voilà.
40 ans, oui.
Ouais, 40e année, un peu comme le Festival international de la poésie à Trois-Rivières, voilà. C'était pas un hasard, c'était une destinée entre les deux, voilà.
Alors, Jean-Claude, donc, tu reviens ici après plusieurs publications. Celle-ci est quand même une publication... particulièrement original dans ta production. Mmh. D'abord parce que c'est tout simplement un très beau livre par la mise en page et les photographies. C'est un livre vraiment, on peut dire même que c'est un livre d'art, vraiment, vraiment.
Oui, je travaille avec, je tiens à remercier ici d'ailleurs la personne avec qui je travaille depuis plusieurs années, qui s'appelle Patrice Jousset-Sacripanti, qui est un illustrateur. Et c'est lui qui fait la mise en page et qui choisit les illustrations. Je lui laisse le choix de choisir et d'écrire dans mes textes les illustrations qui, pour lui, vont au mieux de la vue et de s'assembler entre le texte et l'illustration.
Alors c'est réussi, hein, il y a vraiment une correspondance Et puis, c'est un livre, du fait de ses couleurs, qui sont très chatoyantes, c'est un livre qui est aussi un livre très agréable, un livre qui porte une véritable espérance. Mais ça, tu vas nous en parler plus amplement tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut rappeler peut-être tout ce que tu as fait, hein? Ça va être long parce que bon. Ça remonte à longtemps.
Et on fait, oui.
Jean-Claude,
oui.
Hein?
Et oui, c'est vrai, à mon vieil âge, à 36 ans, tu comprends que...
Alors, on va citer peut-être quand même les derniers.
Oui.
On peut même commencer, si tu veux, à partir de Baroque aux éditions Sabine.
Voilà, c'est ça, Baroque aux éditions Sabine, oui. Oui. Après, il y a La poésie, c'est comme les cons, ça existera toujours.
Ça existera toujours, oui, voilà. La poésie, c'est comme les cons, ça existera toujours. Donc, un titre très provocateur, hein.
Oui, ça plaît beaucoup, ça plaît beaucoup aux Québécois, d'ailleurs.
Oui, et puis ce qui est cité dans la préface d'ailleurs de Monsieur Bonnet tout à l'heure, l'homme qui aimait Diana Krall, Axel Boer et le café.
C'est une petite histoire, ce sont des textes qui se succèdent et c'est un peu comme une, comment dirais-je, comme une petite enquête policière aussi, voilà.
Oui, nous en avons parlé ici, hein, quand c'est sorti en 2006.
Après, il y a le collier de verre, c'est suite à mon premier séjour au Festival international de la poésie à Trois-Rivières en 2017. Voilà. C'est l'histoire d'un collier de verre qui va de main en main, de vie en vie. Voilà. Et ça, c'était après mon passage au Festival, donc en 2017. L'absence est une invention du diable, ça c'est plus récent. En 2022, toujours aux éditions Sabine. Et puis Ab Eterno. Qui est un corse français, le bestiaire pour rire, voilà, qui sont des histoires pour nous détendre et nous faire sourire un petit peu de ce qui peut arriver à chacun d'entre nous, voilà, dans des conditions et dans des moments de vie un peu souvent surprenants et cocasses.
Oui.
Voilà.
Alors, on peut dire que tu es originaire de Corse.
Oui, Corse par mon père et Landes Basque par ma mère.
Donc un produit corse et basque.
De pays de terre qui ont toujours été en résistance et qui sont toujours en résistance. Voilà.
Oui. Et également, tu as marqué quand même l'histoire ici de littéraire de Toulouse, hein, puisque...
J'ai un amour inconsidéré pour Toulouse. C'est une ville que j'aime beaucoup. Qui m'a façonné aussi, à laquelle j'ai rencontré des gens, des femmes et des hommes assez exceptionnels. Et donc ça a nourri un petit peu les instants de vie, ça c'était très important. C'est aussi un moment douloureux puisque c'est la terre qui a vu partir ma fille unique dans les épaules aussi, ça je tiens à le dire. Et si je reste vivant, c'est aussi en écrivant, aussi en particulier pour elle, voilà.
Alors, tu as fait de la radio ici à Toulouse.
Oui, j'ai dirigé. Je me suis occupé de deux radios. Ça a été des moments de jubilation assez bons pour moi parce que ça a été d'abord une première radio qui s'appelait qui était du côté de la Belge, deuxième radio TSF100 que j'ai pris en main et qui était une des plus grandes FM de France d'ailleurs à l'époque. Et ça, j'ai dirigé ça pendant 3 ans, voilà.
Oui.
De 1982, 83, un début 85, voilà.
C'était l'époque.
C'était au moment de la FM, hein, donc voilà. C'était. Il y avait une libération. Où la parole, je dirais, se libérait et où on pouvait, si, pouvait dire un petit peu ce qu'on. J'avais envie de dire que c'était très important, c'était un moment de liberté, hein, très important.
Oui, c'était l'époque d'or de la radio à cette époque-là. Hein.
Ouais,
donc
ouais.
Il y avait une libéralisation qui venait de s'être faite. Et il y avait une création très importante dans la radio, qui fait maintenant qu'avec les nouvelles technologies, bien entendu, ce n'est plus la même chose. Mais ça a été ces années 80, c'est quand même très marquant. et la radio a beaucoup apporté quand même à la culture à ce moment-là, et en particulier à la poésie, parce que la radio passe très bien à la poésie.
Absolument. Alors, avec Radio des Coteaux, d'ailleurs, c'est la première radio que j'avais pris en main, avant TSF100, je me souviens d'avoir fait venir des tas de femmes et d'hommes qui s'exprimaient tant au niveau de la littérature que de la chanson. Oui. Et ça, c'était des moments, je dirais, de grande respiration.
Oui. Il y avait Henri Hurtubise, je crois, aussi, avec toi.
Oui, il y avait Henri Hurtubise. J'ai fait découvrir, par exemple, au Toulousain un chanteur qui s'appelait Jordi Barre.
Oui.
Qui est un catalan.
Oui.
Voilà, donc, les premières chansons des Gaules, voilà. Etc., etc. Il y avait une émission sur la porte du bizarre aussi avec l'Union. Voilà, donc, il y avait le monde du show business toulousain qui venait grossir le rang des animateurs et des chroniqueurs de cette radio. Voilà.
Oui, j'ai eu le plaisir d'y être invité aussi.
Absolument.
Si je me souviens. Alors quand même, nous avons réussi, je pense, nous allons écouter quand même la voix de Jean-Claude Ettori.
Oui.
Et nous allons faire une petite pause. On va écouter « Ma vie comme ça ».
Ah bien.
J'avais posé ma vie comme ça, comme on le désire tant de fois. Lisais un poème de Pouchkine avec les yeux de Natacha. Et sur les bords de la Neva, à l'ombre de ce cavalier, je te serrais fort dans mes bras, tu m'apprenais ton alphabet. Québec, Londres et Dublin, Lily Marlène de Berlin, les nuits du Caire avec Leïla. J'en oubliais Beyrouth, Rabat, Prague, Ankara et les lumières de la Seine. J'avais posé ma vie comme ça, sur des voyages des galas. La dame de pique de Pouchkine avec les yeux de Natacha. Sur les bords de la Moscova, à l'ombre de ces grands palais, je te serrais fort dans mes bras, tu m'apprenais ton alphabet. J'en oubliais Rome, Québec, Londres et Dublin, Marlène de Berlin, les nuits du Caire avec Leïla. J'en oubliais Beyrouth, Rabat, Prague, Ankara et les lumières de la Seine. J'avais posé ma vie comme ça, jusqu'à cette rivière au cas, sur un poème de Rimbaud, brillaient les yeux de Natacha. Et et au cœur de Bolé Novo, à l'ombre d'immenses forêts, je ne cherchais plus mes mots, je récitais ton alphabet. Québec, Londres et Dublin, Lily Marlène de Berlin, les nuits du Caire avec Leïla. J'en oubliais Beyrouth, Rabat, Prague, Ankara et les lumières de la Seine, toutes les symphonies viennent.
Voilà, c'était Ma vie comme ça, de Jean-Claude Ettori, donc sur ce CD Vermentino.
Voilà, merci à mon producteur, Production Tête en l'air, avec qui je travaille, Philippe Benafos. Je continue à travailler d'ailleurs. Un clin d'œil aussi à Alain Arnaud, un de mes claviers, à Alain Foucault, un de mes compositeurs, Daniel Henck, aussi un autre mélodiste compositeur, et puis, puis Pierre Théodori, tout le monde dans le métier connaît. France et outre-Manche, comme on dit, voilà.
Alors Jean-Claude, nous allons revenir à ta publication du moment,
oui.
Ce fameux carnet de route et textes sacrés, oui. Donc aux éditions Sabine. Ces deux parties se répondent l'une l'autre. Pourquoi avoir mis ces deux parties? C'est un face-à-face aussi.
Voilà, c'est un peu un face-à-face, carnet de route, c'est un petit peu, nous sommes dans la cité, dans la vie, et texte sacré, nous sommes un petit peu dans ce qu'on a de plus enfoui au fond de soi, donc j'ai voulu faire ce face-à-face, un jeu de miroir un petit peu, entre carnet de route et texte sacré, voilà, dans un même ouvrage.
Mais est-ce qu'on peut dire que le texte sacré répond au texte carnet de route?
Alors, je vais répondre franchement, chacun y trouvera ce qu'il a envie d'y trouver. Bah, donc, plusieurs personnes qui vont lire cet ouvrage, qui vont pas trouver la même chose. L'un peut répondre à l'autre. Cela dépend de la lectrice ou du lecteur, voilà.
Il y a une poésie du réel dans Carnet de route, hein.
Oui, absolument, c'est ça.
Voilà, une poésie du réel, qui est la poésie en définitive, c'est-à-dire que rien n'échappe à la poésie, rien ne peut échapper à la poésie, hein, la vie ordinaire n'échappe pas à la poésie, contrairement à ce que croient les gens, tout. C'est le langage qui fait la poésie, c'est la langue, c'est le travail sur la langue qui fait le miracle de l'émotion qui naît du poème. Mais ce n'est pas le sujet, peu importe le sujet, tous les sujets sont propices au poème. Et puis l'autre côté, le texte sacré, c'est effectivement, comme son nom l'indique, une sacralisation de quelque chose, et donc le poème va se fonder sur un des aspects de la vie spirituelle qui devient un aspect sacré. C'est oui, comme ça que je l'ai lu en ce qui me concerne.
Oui, mais c'est exactement ça. Texte sacré, c'est... Nous vivons une époque actuellement où le sacré est saccagé. Où le sacré est saccagé, voilà.
Oui, donc, oui.
Et ça me touche beaucoup, c'est la raison pour laquelle, entre carnet de route et texte sacré permet à réveiller carnet de route quelque part. Voilà, donc c'est pour ça que je les ai confrontés, je les ai mis en miroir, j'ai mis ces carnet de route et texte sacré en miroir, justement, pour rappeler à carnet de route, qui est un... sont des textes sur la vie, que le sacré a, depuis la nuit des temps, hante et permet à la femme et à l'homme de vivre les choses les plus enfouies au fond de lui-même.
Oui. C'est le sacré qui a fondé toutes les civilisations, en définitive.
Bien sûr, je dis par exemple dans le texte sacré numéro 6, texte avec une belle illustration, oui. Une jeune femme, il s'est assis avec elle au milieu du baptistère, ils ont fermé les yeux, de l'eau coulait sur leur front, versée par l'homme à la toge, au-dessus de leur tête un ciel bleu limpide et pur, de cette petite ville de Corse du Sud à Sagone, il y a 16 siècles. Oui. Oui. Voilà, et donc entre le texte sacré et le carnet de route, il y a quand même une connivence, je dirais, de vie et de sacré qui fait que les deux se mélangent pour alerter quelque part la cité dans laquelle, avec un grand C, nous sommes tous.
Oui. Et c'est bien de rappeler quand même que de tout temps, et qu'on a besoin quand même de la sacralisation de certaines choses, c'est justement parce qu'on a désacralisé un tout maintenant que nous sommes un peu dans ce marasme qui interroge et dont on ne sait pas très bien sur quoi il va aboutir.
Je dis dans le texte sacré numéro 9, oui. C'est une réponse à ce que tu dis.
Si.
Dans les caves du Vatican, le jeune prêtre tremblait en ouvrant un grand livre avec son fermoir en or. Sous la lumière crue du plafond, il respirait mal en lisant les premières pages écrites en langue très ancienne. Ce livre, oublié par la main d'un dieu, lui brûla les mains et son âme. Donc c'est toutes les interrogations aussi sur la religion, sur la foi, sur toutes les interrogations que nous nous posons toutes et tous.
Et là, en particulier là également, sur les religions du livre. Ouais. Je vais te demander, Jean-Claude, de bien vouloir, là, il est 14h32, donc nous avons un peu de temps, de bien vouloir nous lire, s'il te plaît, ce recueil, depuis le début.
Allez. Carnet de route numéro 1. Je t'aime tel que tu es, avec toute ces saisons qui coulent dans tes yeux, avec les traces de tes pas vers d'autres chemins d'ailleurs, je t'aime tel que tu es, avec le et de ces pays de l'autre côté, avec tes cris de sable et la course de tes voyages, je t'aime tel que tu es, avec ton au revoir d'hier et ce regard d'adieu et ta voix de mine et ton nuage d'odeur, je t'aime tel que tu es, avec tes mains brûlées au soleil de mille pays et l'ombre de ton corps sur le trait du lointain, je t'aime tel que tu es. Dans les orages de mes rêves, dans ces nuits déchirantes, dans ces jours aveuglants, dans ce bruit où je t'ai reconnu.
Voilà. Donc là, c'est un poème d'amour, hein.
C'est absolument.
Donc de la vie de la vie ordinaire. Hein,
De la vie ordinaire, absolument.
Voilà.
Et on est confronté, tout homme est confronté à ça.
Oui. Et on regarde un texte sacré numéro 1 que tu vas nous lire.
Dans le tronc de ce chêne centenaire était écrit en langue celte sur une peau de bête les recettes de guérison. Une jeune femme aux yeux roux de la montagne connaissait les lettres magiques. Elle est traquée depuis longtemps et les arbres veillent sur elle.
Alors là, c'est la tradition celtique, hein ?
Absolument.
Voilà, avec les arbres.
Dans nous faisant, nous sommes en partie issus, hein. Oui. Pas oublié quand même.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et avec les arbres, hein, qui étaient quand même, qui avaient une importance considérable dans la civilisation à cette époque-là.
Absolument. Les arbres sont sacrés. Et c'était pour moi aussi.
On va continuer.
Carnet de route numéro 2. Ça se passe. Ça se passe à La Rochelle, où j'ai vécu 7 ans d'ailleurs, et j'ai fait une belle adolescence et où j'ai appris les premières, comment dirais-je, les premières esquisses du théâtre, où j'ai commencé le théâtre là-bas, voilà.
Oui.
J'ai un souvenir très prégnant, c'est très prégnant pour moi, La Rochelle. J'entends les vagues du rocher de la Vierge frapper la plage au galet, et de l'immeuble au pilotis, j'ai toujours cette odeur d'algues et avec mes doigts chercheurs de fossiles, j'arpentais à marée basse tous ces trésors depuis des années de formol scintille. Ma mémoire des glaciers qui fondent, je regarde sur mon téléphone cette photo où le temps a figé des traces de bonheur tout près de La Rochelle à Portneuf. Ce souvenir d'adolescence, de vie, donc. Et ensuite, nous passons à Texte Sacré c'est un texte sacré un peu particulier, sur l'exorcisme. Dans la pièce pleine de bruit et de cris, les murs se rapprochaient avec sa main sur sa poitrine en prononçant des mots très forts, des mots incompréhensibles. Son autre main s'est plaquée sur un corps brûlant et tordu. Une ombre s'est écrasée sur le sol, transpercée par une croix en feu.
Alors là, on entre directement dans la tradition chrétienne.
Absolument. Nous sommes dans l'exorcisme, oui. Voilà, dans le. Ce qui peut nous entourer, oui. Même si. C'est parfois dans la tête, mais bon, on peut être entouré et compter toute notre vie entre le mal et le bien, voilà. Carnet de route numéro 3. J'ai écouté le souffle du rêve envahir la nuit. Écoutez les cris des cloisons de papier. Écoutez l'enfant qui serre son cœur. Écoutez le voile déchirer l'Orient. Écoutez la mer dans la nacre du coquillage. Écoutez les voix dans ces arènes millénaires, écoutez le combattant lutter dans la peur, écoutez le bruit du souvenir qui claque au vent, écoutez la femme raconter son amour, écoutez ce chien respirer en silence, écoutez les pages de ce livre qui attend, écoutez la corne de brume du bateau, écoutez la chanson des cités perdues, écoutez la prière au fond d'une chapelle, écoutez le feu craquer de forêt, écoutez la faim dans les yeux de cette photo, écoutez les murmures de la foule qui attend. Écoutez bien d'où vient cette rumeur. Et on suit avec un texte sacré d'une époque, certains pays, un peu particulier, mais vous allez deviner. Le prêtre tenait dans ses mains un poignard en silex pour faire le sacrifice. Caché au fond de la pyramide, une jeune Inca d'une grande beauté était entrée en contact avec lui. Elle marchait dans sa tête. Le prêtre se mit à vaciller, puis son bras se retourna contre lui. Depuis, l'eau coule dans la ville.
Voilà, c'est la tradition Inca.
La tradition Inca.
Mais c'est toute la part du sacrifice. Dans sacrifice, il y a le mot sacré, évidemment.
Terrible, et là,
la racine du sacrifice, c'est sacré.
Le poignard se retourne contre le prêtre oui. pour ouvrir à une voie de liberté où l'eau coule maintenant à la ville. Voilà. Oui. Pour ceux qui connaissent cette situation Inca, c'est une situation très particulière.
On continue la route.
Eh oui. À regarder se déshabiller dans la pluie d'automne après un long voyage. Elle avait la peau colorée des terres ocre d'Afrique. Elle avait le corps étrange et le regard absent. Et avait perdu doucement dans la pièce. Il n'entendit pas sa fuite, elle était ailleurs là-bas, à la savane et les plateaux, tout au début du monde. Ici, il n'y avait plus d'odeur, il n'y avait plus de rugissement, il n'y avait plus d'horizon, mais là-bas, tout là-bas, il y avait juste l'ombre d'un arbre, c'est les réfugiés et rêver. Toute la solitude des Africains dans leur vie, qui n'ont pas cette liberté, qui n'ont pas trouvé la force aussi de se défaire d'une partie de junte qui les gouverne et qui les oppresse aussi, voilà.
Oui. Qui peut être pire maintenant que ce qu'ils ont connu avant.
Absolument. C'est.
Et qu'on n'ose pas dire.
On n'en parle pas assez, c'est terrible.
Oui.
Et donc. Face aux oubliettes, on revient au Moyen-Âge un peu, un trait de lumière bleue tracé dans les oubliettes, on avance avec prudence, dans une odeur particulière, au bout d'un long couloir, un mur lisse et des inscriptions bloquées d'autres marches. Puis, les lettres du mur scintillèrent, celui qui avec nous savait, disparut en récitant une langue inconnue.
Alors ça, c'est une, c'est l'initié.
L'initié, et, voilà, c'est voilà. Ça.
Il faut le pour arriver au sacré, il y a une initiation. C'est ce que tu dis dans ce texte. Hein.
Exactement. Ouais. Vous savez. On passe à un texte. J'ai perdu un Ben qui était un chien labrador et très fan de l'ordre. Et c'est vrai que c'est moi. Il y a des mots que l'on n'emploie jamais, que l'on ne dit jamais, que l'on ne chante jamais, que l'on n'écrit jamais. Il y a des mots qui n'existent pas même dans la nuit des temps, même dans les derniers artefacts, même dans la bouche des anciens. Il y a des mots que l'on ne trouve jamais, même dans les rêves que l'on rêve. Il y a des mots qui n'ont pas de fantôme parce qu'ils n'existent pas. Il y a des mots qui n'ont pas existé quand la douleur est si forte et que les mains comme des oiseaux cherchent dans le ciel le marionnettiste. Tu es là devant moi, avec moi. Nous sommes côte à côte face à la tramontane, poil au nez. Chien à jamais dans mon cœur, mais comme tu me manques. C'était un chien, comme tous ceux qui ont des chiens exceptionnels, voilà.
C'est souvent, c'est le maître qui fait souvent le chien, hein.
Eh oui.
Et ils finissent par se ressembler.
Voilà, c'est un texte, c'est un texte que parle un peu de, je dirais, c'est un peu chamanique.
Oui.
C'est la c'était court. À la grotte éclairée de torches, une femme avait à ses pieds des poudres et des brambons. Un roc était dessiné. Sur la roche, elle mit l'empreinte de ses mains colorées sur le flanc de l'animal, en lançant des cris terribles. Dehors, dans la plaine, des saguets avaient transpercé mortellement la proie. Savoir qu'à cette époque-là, dessiner des aurochs ou des animaux sur les
parois rocheuses,
sur les parois des grottes, on ne savait pas ce qu'étaient les mains. Et en réalité, ces mains, souvent, étaient les endroits où l'animal allait être transpercé. Donc c'était une aide à la chasse, en quelque sorte.
Oui. Oui. On peut dire qu'ici, par exemple, en Haute-Garonne, c'est les grottes de Gargas.
Absolument.
Ce sont les grottes où il y a le plus de mains qui apparaissent comme ça. Avec des pochoirs, hein, les mains,
c'est
des pochoirs. C'est-à-dire qu'on soufflait la peinture, et donc il restait, avec la technique du pochoir, il restait la main. Voilà. Et, mais il y a effectivement beaucoup, ce n'était pas décoratif. Hein. À quoi correspondait cette sacralisation de la main? C'est une belle question.
Ouais, absolument. Alors, ensuite, là, on passe à un texte, il y a le texte 6, le carnet de route 6, texte sacré 6 que j'ai lu tout à l'heure sur le baptistère. Alors, le carnet de route 6, c'est tout a été écrit, tout a été dit, mais il reste un peu de place dans ce ciel catalan pour ces quelques mots d'un exilé du Sud, venant d'un pays mille fois envahi, mais accueilli sur une terre au cœur de liberté, où l'on se tient par la main comme cette danse éternelle. Et la sardane, voilà, la sardane. Le texte sacré, je l'ai lu tout à l'heure, le texte sacré 6, où je parle d'un baptistère. Partie de route 7. Sur ma main, j'ai tracé un chemin oublié, la cartomancienne, ma main dans la sienne, m'a raconté une histoire dont je rêvais tous les soirs. Je me souviens de sa voix, de la douceur de ses doigts, de son étrange allure qui m'avait troublé. Elle parlait doucement. Elle disait que le temps est venu pour moi d'aimer une autre fois. Au creux de ma main, elle a dessiné un matin, j'ai regardé ses yeux qui regardaient mes yeux. Elle marchait dans ma vie pour effacer mes nuits. Sa main s'est détachée, ses yeux se sont fermés. Dans un souffle, elle disparut. Et tout au fond de la rue, il y avait dans la lumière comme une étoile solaire. Mmh. Oui. De temps en temps, on s'interroge sur l'avenir et on aimerait bien qu'on nous dise ce qui va se passer. On a tous eu cette tentation. Mmh. Texte sacré 7. Devant le mur d'Adrien, les femmes guerrières étaient prêtes au combat. Le soleil qui se levait envoyait sur leur corps se dessiner leurs tatouages. On les appelait les femmes bleues. Leur peau avait été piquée de signes et de symboles par la prophétesse reine. Elle hante en Écosse. D'accord. Les Romains avaient été confrontés à ces femmes guerrières quand ils ont fait le mur d'Adrien. C'est en souvenir de ces femmes guerrières que j'ai fait ce texte.
C'était les Amazones celtes.
Voilà, exactement. Alors, je ne sais pas si on va tout lire, parce que ça va être long, là. Mais on peut s'arrêter là et laisser découvrir, aux futurs, personnes qui voudront bien se procurer cet ouvrage.
Oui. On va, si tu veux, on va passer directement, peut-être, au carnet de route 19, tiens, juste pour finir.
Voilà.
Les deux derniers.
Il a regardé autour de lui toutes ces années comme des artefacts plantés en rang bien serré. Il s'est assis au milieu. Il a compris soudain pourquoi le miroir était déformé et tordu. Il a chanté la chanson de Régine. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime, que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Il a senti sur le bout de ses lèvres le souffle d'un baiser de la jeune fille en fleurs qu'il a toujours dans le cœur. Et on va terminer sur le texte sacré numéro 19 qui est particulier pour moi. Je te dirai pourquoi à la fin des quelques lignes lues. L'histoire d'une petite église à l'orée d'un village du sud construite par des anges en quelques lignes magiques. Il suffit de poser ses mains sur ces murs magnétiques où se murmure la légende de la chapelle du Saint-Esprit dans ce village corse d'Olmeto. C'est une histoire vraie. Au XIXe siècle, le curé du petit village, à l'orée du village, a dit « on va construire une chapelle ». Donc le soir, tous les paysans se mettaient ensemble pour amener les pierres, pour amener le mortier. Et le lendemain, quand ils revenaient, tous ces matériaux étaient déplacés à une centaine de mètres. Alors, évidemment, c'était... qui pouvait avoir fait ça dans la nuit. Donc, ils ont remis les matériaux au premier endroit, ils ont continué à mettre des autres matériaux, et le surlendemain, toujours pareil, ils ont retrouvé les matériaux mis à une centaine de mètres. Donc, le prêtre ne fait plus rien, et la chapelle est construite peut-être par des anges qui, dans la nuit, ne voulaient pas qu'elle soit au premier endroit, mais à l'endroit qu'ils avaient décidé. C'est pour ça qu'on l'appelle la chapelle du Saint-Esprit, dans le village de Corse du Sud, à Olmeto. Voilà.
On finit par le carnet de route 20.
Et si tu veux. J'ai toujours ta lettre qui parlait de nous deux et de la croisée de nos routes. J'ai couru vers le ponton, assis tout au bout. J'ai lu la danse de 1000 poissons, des dauphins malicieux et leurs cris, accompagnés d'oiseaux de couleur, et sur la mousse des flots. C'est un instant. La sirène te ressemblait tant.
Là, c'est toujours un poème d'amour, hein.
Ben oui, bien évidemment. Et que serions-nous si l'amour n'était pas là, hein? Christian, qu'est-ce que nous serions?
Rien.
Pas grand-chose. Je voudrais juste terminer par un texte inédit qui ne sera jamais publié, que j'avais écrit lors de la soirée Québécois en octobre. On était 20 poètes de la planète sélectionnés pour une très très belle soirée pour ce 40e anniversaire. Et chacun a présenté un texte, avec d'autres bien sûr, pour dire qui il était. Et donc c'est un inédit. J'y tiens beaucoup à ce texte parce que Trois-Rivières, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a des milliers de gens qui viennent pendant plusieurs jours, pour écouter de la poésie. Et ils sont là, et ils partagent, et ils nous aiment. Et ça, c'est très important. Je viens des cités et des rues où les ombres n'existent pas. Je viens des plages de sable et de galets où le chant des femmes m'a envoûté. Je viens des combats bénis par la croix où je n'étais qu'un soldat pour survivre. Je viens des églises qui embaument de cierges où les saintes et les saints me sourient. Je viens d'un ventre de musique et de douceur où chaque mot célébrait l'amour. Je viens de la colère de mon miroir où j'ai juré que c'était la dernière fois. Je viens du baiser d'un matin en fleurs où les odeurs sont encore dans mon cœur. Je viens d'une histoire que je ne connais pas. Je suis à chaque ligne et dans chaque cri. Je viens vers vous en marchant sur un fil où tout en dessous, il y a vous tous.
Bon. Alors ça, c'est à paraître, si je comprends bien.
Non, c'est un inédit qui sera simplement lu, mais oui. qui ne sera pas édité. D'ailleurs, je voudrais terminer d'abord en te remerciant bien sûr d'avoir partagé tous ces moments avec les auditeurs et avec nous, et te dire qu'en septembre, je fais une série de signatures. Il y aura bien sûr cet ouvrage. Je viens de faire une signature lecture à Toulouse avec le dernier album qui est en train de se faire, et surtout, et ça c'est un peu exclusif, un roman. Je ne peux pas donner le nom de l'éditeur pour l'instant. Voilà.
Très bien. On pourrait peut-être finir
en septembre. En septembre à Toulouse, revenir dans cette ville que j'aime beaucoup.
Très bien. Eh bien, écoute, nous aurons le plaisir de t'accueillir et de l'annoncer bien avant, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait finir, Jean-Claude Ettori, est-ce qu'on pourrait finir sur un inédit encore?
Alors, sur un inédit, bon, alors...
Ou un texte que tu aurais particulièrement à cœur de vouloir faire écouter.
Bon, écoute, je vais terminer sur ce qui a été écrit en 2005 pour Toulouse-Québec. Oui. J'avais organisé avec le centre culturel, avec toute l'équipe du théâtre Jules-Julien.
Oui, oui, oui.
J'espère que tu te souviens, bien sûr.
Oui.
Mais je te jure, je te lirai mes poèmes, tu pardonneras ma voix cassée par la brume. Je les lirai partout pour toi, dans la rue, dans les églises, dans les places publiques, dans le TGV, dans les avions, sur le Queen Mary. À la Tour d'Argent, dans les jardins de Versailles, dans les potagers de Versailles, pour toi, je lirai partout, dans les librairies, les bibliothèques, les médiathèques, les musées, les galeries. Je lirai partout pour toi, dans les hôpitaux, les cliniques, les asiles de fous, où il y a plein de poètes, dans les prisons, les camps de concentration, les maisons de retraite rongées par la mort. Je lirai partout, les cinémas, dans les théâtres à Bercy, à l'Olympia, dans les salles oubliées de Lille à Perpignan, de Belfort à Quimper, en passant par La Rochelle, Olmeto, Dax et Toulouse. Partout, je lirai mes poèmes. Tu pardonneras ma voix cassée par la brume, oui, je jure, je lirai mes poèmes et ceux de mon frère, dans la lumière du jour, des poèmes comme des claques, comme des batailles, comme des cris d'amour, comme des cris de haine, comme des cris d'homme, oui, je te jure pour toi, je lirai tous ces poèmes.
Merci, Jean-Claude Ettori.
Merci à Radio Occidentale, merci à toi, et j'embrasse très fort tous ceux qui étaient de l'autre côté du micro.
J'en ne manquerai pas. Jean-Claude Ettori, on rappelle le titre de ton dernier livre, Jean-Claude Ettori, Carnet de route, texte sacré, aux éditions Sabine. Voilà, cela vous coûtera 15,90 €, mais c'est merveilleusement illustré. Il y a une correspondance vraiment très réussie entre les illustrations et le texte. Et j'ai été moi particulièrement ému de voir la gueule de ton chien là, qui est magnifique.
Ouais, Elbon, il s'appelait.
Voilà, Jean-Claude Ettori.
Forza Poesia, Forza Poesia. Après, toi, bientôt, comme on dit encore.
À très bientôt. Adi Chat.
Bisous, bisous. Ciao.
Ciao. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Adi Chat.